Chapitre 10e. À force d'avoir été à gauche et à droite, je commençais à avoir l'impression que je lassais les gens, que tout le monde savait que je ne faisais que cela. Me présenter chez eux et que même en allant là où je n'avais pas encore été, j'allais être reçu comme si je revenais pour la 10e fois. Pourtant, je n'étais pas difficile. Une chambre avec un matelas, une table et une chaise, dans un endroit tranquille, voilà tout ce que je demandais. Quand j'en parlais, personne ne pouvait croire que je ne l'eusse pas encore trouvé. C'était si modeste, si simple. Je m'assis sur un banc, en face d'un grand café, comme ces passants qui veulent écouter la musique sans consommer. Je savais que là, personne ne tournerait la tête de mon côté. Je regardais les gens. En effet, au moment où ils passaient devant moi, toutes les têtes automatiquement se tournaient vers la terrasse et c'en était même drôle. À midi, je voulus aller dans un restaurant. Mais je craignais d'être mêlé malgré moi à une histoire de marché noir. J'avais faim, pourtant. Je n'avais toujours pas de carte d'alimentation. Il arrive un moment où toutes ces entraves finissent par nous porter sur les nerfs. C'était quand même incroyable de ne pas arriver à trouver une chambre, quelqu'un qui vous dise « logez chez moi ». Combien de fois, pourtant, avant la guerre, avais-je ainsi couché chez des amis, simplement parce qu'il n'y avait plus de métro ? Aujourd'hui, c'était impossible. Tout était impossible, manger, acheter un pardessus, etc. Au temps où j'avais fait de la peinture, je n'avais éprouvé aucune difficulté pour me loger ou manger quand mon père m'avait coupé les vivres. J'avais vécu à la charge de mes amis peintres, comme, pendant la guerre, j'avais vu tant de gens vivre à la charge des soldats. J'avais couché dans des soupentes un peu partout. Ce fut à Montparnasse que je me rendis, mais tout avait changé. Ce quartier si familier m'était aussi fermé que les autres. Je me dis qu'il fallait commencer par le commencement, me créer des amitiés, etc. Mon erreur, je m'en apercevais, était de croire qu'on retrouvait les choses au point où on les avait laissées. Le genre de personne qui me fut venu en aide n'existait plus. Ce qu'il y a de tragique, c'est quand on fait de telles constatations à la tombée de la nuit. J'avais peur d'être dehors. Les commerçants avaient une façon de baisser le rideau de fer qui me glaçait. On eût dit que dans quelques instants, il allait y avoir une émeute. Quand on ne sait plus quoi faire, on refait l'examen de toutes les possibilités qu'on a déjà écartées. On s'aperçoit alors avec surprise qu'on avait été bien sévère. Au fond, je pouvais très bien retourner chez ces mêmes gens que je croyais avoir quittés pour toujours. Soudain, la pensée de retourner tout simplement rue Victor Massé chez Charles me vint à l'esprit. Mais un sentiment imprévu d'amour-propre me retenait. Je me demandais si, quand notre vie est en jeu, nous devons tenir compte de notre amour-propre. Qu'importait après tout ce qu'en pensait de moi ? De telles préoccupations peuvent être valables quand nous sommes assurés de vivre, mais aujourd'hui, l'essentiel était de se défendre. Je retournai donc chez Charles. Je m'excusai d'être parti. Je dis que j'avais été pris de crainte. Mais à ma grande surprise, dès que je me trouvais de nouveau dans le petit appartement, je ressentis exactement la même inquiétude qu'auparavant. Ma fugue n'avait servi à rien. Je songeais de nouveau à partir. Un autre problème se posa alors à mon esprit. Devais-je suivre mon désir ou non ? Il devenait de plus en plus évident qu'il y avait en moi quelque chose qui n'allait pas. En changeant ainsi continuellement d'avis, j'allais au-devant d'une catastrophe. Je faisais des efforts pour être en bon terme avec tout le monde, mais en même temps l'importance que j'attachais à ma sécurité me poussait à des extravagances. Devrais-je rester chez Charles malgré ma volonté ? Je songeais à le faire, mais au bout de quelques heures, il m'apparut qu'il est impossible de vivre pour un homme en danger, selon une ligne raisonnable, et que le seul moyen de retrouver ma tranquillité d'âme était de suivre mon instinct. Charles m'avait pourtant très bien accueilli. Il faut dire que la réaction de ceux qui ont eu le désir de prendre sur nous de l'empire est toujours la même dans des cas semblables. Ils ne se froissent jamais. Ils ont l'air d'avoir toujours respecté notre indépendance. Je repartis le lendemain. Je sentais que je laissais derrière moi une situation trouble, dans laquelle je n'étais pas à mon avantage. Mais quand on est jeune, on est victime de l'illusion que le monde est beaucoup plus grand qu'il n'est. On a l'impression qu'on n'a qu'à partir pour ne jamais revoir les gens avec lesquels on s'est mal conduit et que tout est fini pour toujours. L'idée se faisait de plus en plus forte en moi de quitter la France. Depuis que j'habitais une pension derrière le Panthéon, rue du Cardinal Lemoine exactement, où mon père m'avait recommandé et où jusqu'à présent, pour cette raison sans doute, on ne m'avait demandé aucun papier, je passais mon temps devant une grande carte murale pendue dans le hall. Toutes les parties claires étaient celles qui restaient à conquérir par les Allemands. Je ne me lassais pas de les regarder, bien que ce fût toujours la même chose. Il me semblait que j'allais trouver enfin le moyen de me rendre dans ces régions encore libres. Je ne le trouvais jamais. Je m'attardais sur la zone située entre Marseille et les Pyrénées. Je me voyais passant sur un petit bateau la nuit, en Espagne, et de là, me rendant en Angleterre. Une autre zone attirait également mes regards, celle de Menton. Peut-être y avait-il là un moyen de fuir ? Et si je faisais le contraire de ce que font les gens ? Me dis-je un jour. Je sentais que ce qui rendait si difficile toute fuite, c'était que trop de monde cherchait la même chose. Il y avait d'ailleurs trop de monde partout. Je m'en étais aperçu au moment où la nourriture avait commencé à manquer. Au début, j'étais persuadé que je m'en tirerais toujours. Je m'étais vu dénichant des épiciers isolés, m'arrangeant avec eux, gagnant leur sympathie, etc. Or, je n'avais pas été long à comprendre que ces moyens auxquels je croyais avoir été le seul à penser, tout le monde s'en servait, et que chaque fois que j'arrivais quelque part, j'avais été précédé par d'autres. Impossible d'être le premier, de m'entendre avec quelqu'un le premier. Impossible d'obtenir ce que j'avais si souvent et si facilement obtenu en temps de paix, de petites faveurs particulières. Moi qui croyais avoir un certain don de persuasion, moi qui croyais plaire, je constatais avec étonnement que tout le monde avait ce même don et plaisait autant que moi. Quand on me disait qu'à Marseille, on ne pouvait pas se loger tellement il y avait de monde, cela me causait un malaise. Partout, j'étais bloqué, non seulement par la police, mais par mes semblables, par la foule, par tous les Français. La difficulté était donc de trouver, en regardant cette carte du monde, ce à quoi personne n'avait pensé. Un jour, je le trouvais. Personne n'avait songé à cela. J'étais le seul à avoir cette idée. J'allais être libre de mes mouvements. Lorsque je demanderais quelque chose, je n'aurais pas été précédé par quelqu'un. Je n'avais qu'à fuir, mais dans la direction de l'ennemi, je n'avais qu'à retraverser l'Allemagne, aller en Russie. Pendant plusieurs jours, cette idée ne me quitta plus. J'avais tellement l'impression qu'elle était géniale que je m'en voulais de ne l'avoir pas eue plus tôt, car peut-être on y pensait déjà. J'étais réconforté. Il y avait devant mes yeux tant de frontières, de montagnes, de fleuves, de plaines, qu'il semblait impossible qu'un jour je ne puisse m'échapper. Mais, parfois, il m'apparaissait que je ne pourrais même pas sortir de Paris. Un matin, je décidai d'aller déjeuner dans un certain restaurant de banlieue, proche d'un aérodrome, qu'on m'avait dit fréquenté par des aviateurs qui faisaient la navette entre la France et l'Angleterre. Je ne connaissais personne, mais je me disais qu'il en était de mon passage en Angleterre comme de toute ambition en temps normal. Il faut s'efforcer d'approcher ceux qui, par leur profession ou leur situation, peuvent vous renseigner, vous conseiller, vous aider. Des gens quittaient certainement la France en avion. Je fis les 100 pas devant le petit restaurant. Il y a une chose gênante, c'est d'avoir l'air de venir pour autre chose vis-à-vis des gens qui savent très bien pourquoi l'on vient. De l'intérieur, on me voyait peut-être passer et repasser, et l'on disait « En voilà encore un. C'est un timide, celui-là. Entrera-t-il ou n'entrera-t-il pas ? On parie. » Et moi, pendant ce temps, je faisais semblant de guetter le car. Et quand il arrivait, pour faire comprendre pourquoi je ne montais pas, je regardais ma montre comme si j'attendais quelqu'un. Au bout d'une heure, je me dis que j'étais ridicule, qu'il eût mieux valu entrer tout de suite, qu'à force d'hésiter, j'avais attiré l'attention. Je pensais revenir le lendemain, mais c'était trop rapproché. Il aurait fallu attendre au moins une semaine, car les images ne s'effacent pas si vite de la rétine. Les gens auraient dit « Ah, voilà le type d'hier, il a mis le temps à se décider. » Enfin, profitant de l'arrivée d'un groupe de clients, j'entrai derrière eux dans le restaurant. Je m'assis à côté de deux hommes qui achevaient de déjeuner. Ce qui m'intimidait un peu, c'était que je n'avais pas le genre de la maison. Non pas que je fusse plus mal habillé que les autres consommateurs, mais tous avaient un aspect sportif, décidé. Ils parlaient fort, se connaissaient entre eux et comme les acteurs, les journalistes, les policiers, quand ils se retrouvent dans leur café habituel, ils avaient l'air de croire que le reste du monde n'existait pas. Je me sentais un intrus. Mais comme personne ne faisait attention à moi, je repris de l'assurance. le garçon vint me servir. Je remarquai alors avec joie que c'était un de ces garçons qui ne font aucune distinction entre les clients et qui ont un égal respect pour toute personne qui s'assoit à une table. Je ne bougeais pas. J'étais bien décidé à attendre une occasion, à ne surtout pas la chercher. J'étais assez fier de moi. Je ne pouvais m'empêcher de penser à certains de mes camarades de captivité. S'ils m'avaient vu ici, ils eussent trouvé certainement que j'avais une audace formidable, moi qui disais toujours que j'étais incapable de tenter quelque chose. Ce n'était pas Baumé, ni Pelet, ni tous les autres qui eussent osé se lancer dans une pareille aventure. Je réussis, au bout d'un moment, à lier la conversation avec mes deux voisins. C'étaient bien des aviateurs. Je leur posai quelques questions, mais je m'aperçus très vite qu'ils commençaient à se méfier de moi. Je surprenais parfois dans leur regard une expression d'attention tout à fait étrangère aux propos que nous échangions. J'eus soudain l'impression qu'ils se demandaient si je n'étais pas de la police. Cela me fit un drôle d'effet d'inspirer à mon tour cette même crainte que tout le monde m'inspirait. Il se passa alors ceci d'extraordinaire que je fus pris de peur. C'était moi qu'on craignait et c'était moi qui avais peur. J'avais peur qu'on ne me prît pour un provocateur, qu'on ne voulût me donner une leçon, que je ne fusse obligé d'appeler des agents à mon secours et que ceux-ci, au lieu de me défendre, ne se missent du côté de tous ces hommes que l'horreur du mouchardage rendait sympathiques.